Bonsoir à tous. Je pensais à un chant en préparant ce message et on vient de le chanter. Merci Seigneur. Pour introduire cette pensée, j'aimerais qu'on prenne la parole dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61. Ésaïe, chapitre 61. C'est un texte que Jésus lui-même a lu, qui nous est reporté dans les évangiles. Et c'est Ésaïe qui l'a écrit 600 ans avant qu'il arrive. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Ce texte nous parle tout simplement de ce que l'œuvre de Jésus peut faire dans chacune de nos vies. On voit là des situations où, là où il y a la mort, l'œuvre de Jésus donne la vie. Et j'aimerais qu'on lise cet autre texte dans Ésaïe toujours, au chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9, et nous lisons le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. En ces temps où on sait que Noël approche, c'est un verset qu'on va pouvoir entendre. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Oui, c'est un enfant quand il s'est fait homme, quand c'est Jésus, c'est Dieu incarné. Et il s'est fait homme, donc il est né, effectivement. Mais quand on lit la liste qu'il y a un peu plus loin, c'est bien plus qu'un enfant. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà qui c'est Jésus. Ce n'est pas qu'un petit bébé dans une crèche. C'est tout ça. C'est tout ce qu'on vient de lire. Et j'avais à cœur de faire ressortir parmi cette liste deux qualificatif. Le premier, c'est admirable. Jésus est admirable. Et pour qu'on sache vraiment de quoi on parle, je suis allé voir dans le dictionnaire, et le dictionnaire, souvent, vous savez, il vous donne une définition, puis dans la définition, vous voyez qu'il faut aller encore chercher ailleurs. Et donc pour ça, pour définir admirable, je suis allé chercher la définition de trois mots. Alors, la première définition que j'ai trouvée, c'est digne d'admiration. Une première direction qui dit que celui qui est admirable, c'est celui qui peut être admiré. Mais on ne va pas très loin avec ça. Alors je suis allé voir admiration. Admiration, tout ce que je vous dis, c'est du dictionnaire. C'est du dictionnaire Larousse. Sentiment de ravissement éprouvé devant quelqu'un ou quelque chose. La notion de ravissement m'interpelle. Alors, je suis allé voir ce que c'était que le ravissement. Le ravissement, c'est l'état de quelqu'un qui est transporté de joie, d'admiration et d'enthousiasme. Quand on fait le parallèle avec le fait qu'un jour, on va être ravi aussi, nous, l'Église sera enlevée, sera ravie. Je suis allé voir quand même enthousiasme. Et là, j'ai eu encore une sacrée surprise, si on le puisse dire. Enthousiasme, la définition du dictionnaire nous dit ceci, signifier à l'origine inspiration ou possession par le divin ou par la présence d'un dieu. Le terme sous-entend une communication divine. Donc maintenant, voilà, admirable, quand on prend toutes ces définitions, qu'on les met tout à côté, on se dit quand même que c'est pas juste quelqu'un qu'on aime bien, quoi. Quelqu'un qui est admirable, c'est quelqu'un qui impose le respect. C'est quelqu'un qui qui impose de se sentir justement transporté de joie, d'admiration, d'enthousiasme. Parce qu'il est admirable, je peux être enthousiaste. Et on est enthousiaste quand on le découvre. Quand on se retrouve devant la révélation de qui il est, de ce qu'il a fait pour nous, on ne peut que tomber dans l'enthousiasme. Parce que cela veut dire qu'à ce moment-là, on a cette notion de possession par le divin et qu'il y a une réelle communication divine qui se fait. C'est ça l'enthousiasme. Quelqu'un qui est enthousiaste, c'est quelqu'un qui va vouloir, qui est transporté justement par l'admiration qu'il a, il va vouloir aller. Il y a cette communion entre la personne qui est admirée et la personne qui est enthousiaste pour elle. Il suffit d'aller, de regarder, de sortir dans les rues pour voir ceux qui sont enthousiastes pour leur homme politique. Et il y en a. Il y en a. Ils sont enthousiastes. Seulement, nous, on a plus qu'un homme politique. On a Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, celui qui est admirable. Il n'y en a qu'un qui est admirable, c'est lui. J'avais mis en titre de ce premier point, « Qu'a-t-il donc fait pour mériter ce nom ?» On l'a chanté. On l'a chanté. Quand j'ai vu tes mains, pour guérir tout autour de toi, pour bénir tout autour de toi. J'ai juste cité cette expérience où Jésus s'est retrouvé devant un lépreux qui lui disait « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus va faire quelque chose d'interdit par la loi, il va le toucher. Les lépreux ne pouvaient pas être touchés. Un lépreux, quand il s'avançait, il fallait qu'il crie « Impur, impur !» pour que tout le monde s'éloigne. La lèpre, c'est une maladie contagieuse qui imposait aussi de ne pas toucher. Mais Jésus, il est plus fort. Jésus, il peut toucher celui qui est impur. Jésus, il peut toucher celui qui est dans le péché. Et ce soir, encore une fois, là où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Jésus peut te toucher. Peut-être que tu te sens sale, peut-être que tu te sens impur, et Jésus, il peut te toucher ce soir. Et il peut te purifier, parce que sa main va se poser sur toi. Jésus pleura. Regardons ses yeux. Jésus pleura. Pourquoi il a pleuré ? Parce qu'il a pleuré devant l'incrédulité des gens. Dans cette situation, on peut le lire, Jean 11, 35. Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible. Lisons à partir du verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémirent en son esprit et fut tout ému. Déjà là, il était ému de compassion. Il faut comprendre que dans ce contexte, Marie, c'est une personne qui a complètement perdu la foi. Dans cette situation-là, elle a attendu Jésus, elle a attendu qu'il vienne pour le guérir son frère, il n'est pas venu. Elle a enterré, il y a eu le service d'inhumation, il y avait tout le monde qui était venu, Jésus n'était pas là alors que c'était l'ami de la famille. Imaginons un peu la situation. J'imagine que si vous aviez un ami proche et qu'il venait à mourir, je pense que vous iriez à son enterrement. Jésus n'était pas à l'enterrement de son ami. Et ça a affecté profondément Marie. Et Jésus a été ému parce qu'il voyait la foi de Marie qui était au niveau du sol. C'est pour ça qu'il a été ému. Et on peut continuer. Les Juifs, verset 34, et il dit, « Où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Il y en a qui comprennent. Par contre, il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ? En d'autres termes, pourquoi était-il pas présent au bon moment ? Pourquoi n'était-il pas là ? Après tout, s'il est Dieu, il était bien capable d'être là à l'heure, mais il n'est pas là. Il n'était pas là. Donc quelque part, on le complimente, mais derrière ce compliment, il y a une grande critique à son égard, parce qu'il n'était pas là. Et c'était des gens, une fois encore, qui montraient, par ces réflexions, leur incrédulité. Regardez avec moi le résultat. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Voilà ce qui fait émouvoir Dieu, c'est quand il est face à l'incrédulité. Pourquoi il s'émeut de cette manière ? C'est Jésus qui a pleuré sur Jérusalem en disant « Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes, etc. Si à mes appels tu étais venu, je t'aurais couvert comme une poule couvre ses petits sous ses ailes. » Et ça aussi, c'est un cri de la part de Dieu qui nous montre que Dieu s'émeut devant notre incrédulité. Pourquoi ? Parce qu'il sait que si on reste incrédule, on va droit en enfer. Il faut le dire. Il faut le dire. Celui qui reste incrédule, il va en enfer parce qu'il ne pourra pas croire. Et ce qui sauve, c'est de croire dans ce que Jésus a fait. On peut avoir cette même prière que cet homme qui s'est avancé devant Jésus et qui lui disait « Viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais aide-moi. » C'est une prière qu'on peut faire encore ce soir. Et le Seigneur Jésus n'a pas changé. Ses mains sont les mêmes, ses yeux sont les mêmes. Et alors qu'il était ému, alors que ses mains étaient toujours prêtes à guérir, à se poser là où il y avait la mort, ses mains imposaient la guérison. Parce que face à la vie que représente Jésus, la mort fuit. La mort n'a pas sa place devant Jésus. Et ses mains ne peuvent faire qu'autre chose que donner la vie. Il faut regarder ses pieds. Jésus allait de ville en ville, de village en village, pour prêcher la bonne nouvelle et guérir les malades, tous ceux qui étaient auprès de lui et qui allaient à sa suite pouvaient être guéris. Jésus, tout son ministère, je n'ose pas imaginer la quantité de personnes guéries dans une journée de Jésus sur la terre. Tous les jours, ça devait arriver. Tous les jours. C'était son ministère. C'était ses mains qui ont béni. Et ses pieds qui l'ont amené partout, à droite, à gauche, pour bénir. Il est même allé dans un territoire étranger juste pour une personne. Pourquoi ? Parce que si toi, tu es dans la même situation, en te référant là-dessus, sur cette parole, c'est une histoire qui est dans les évangiles. Elle nous montre que là où tu es, là où tu te trouves, aussi loin que tu puisses être, le Seigneur est prêt à aller jusqu'à toi pour te bénir. Il est prêt à aller jusqu'à toi pour poser sa main guérissante sur toi. Voilà l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il est admirable. Et pourquoi est-il admirable ? Parce que ces mains-là, il les a données sur la croix. Je ne vais pas reprendre tous les chants qui ont été chantés. Je crois que le sujet a été bien abordé par les chants. Les mains de Jésus ont été clouées sur une croix. Il les a données. Il a donné plus que ses mains. Il a donné son corps tout entier. Son corps a été lacéré de coups. Il a donné son sang jusqu'à la dernière goutte. Il a été insulté, méprisé. Il est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés, pour qu'on puisse être pardonné, pour qu'on puisse être réconcilié avec le Père. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Voilà pourquoi il porte ce nom. Voilà pourquoi il est admirable. Parce que quand on réalise tout ça, on comprend. On n'a pas d'autre choix que de se prosterner à ses pieds, de dire « Seigneur, pardonne-moi, parce que devant toute ta bonté, toute ta grandeur, devant tout ce que tu as fait, Seigneur, qui je suis ? Et je suis qu'un homme pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. » Et une fois qu'on a fait cette prière, le Seigneur Jésus pose sa main sur nous. Et là, on découvre qui il est. Il se révèle à nous. Et on comprend. On comprend qu'on a face à nous le Dieu puissant. C'est cet autre nom que je voudrais parler là maintenant. Jésus, il est Dieu puissant. La puissance, c'est une quantité de pouvoir. Déjà, il est Dieu. Un Dieu, de par ce nom, a une certaine quantité de pouvoir. Mais en plus, il est puissant. Il est Dieu puissant. Il a la capacité de changer notre vie complètement. Quelle que soit notre vie. Est-ce que ce soir tu es venu, tu es malade ? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ton corps est malade? Alors, si tu crois, le Seigneur Jésus, ce soir même, peut te guérir. Ce ne sera pas la prière de moi ou de Nicolas qui va vous guérir. C'est Jésus qui vous guérira. Parce que Jésus est ce Dieu puissant. Il veut guérir. Et encore aujourd'hui, il n'a pas changé. Il est là, il est au milieu de nous et il veut se manifester. Est-ce que dans ton moral, tu es complètement détruit? Tu es découragé? Tu n'en peux plus? Ta vie te pèse? Le matin, quand tu te lèves, tu ne penses qu'à te coucher le soir. Et tu te dis, encore une journée à traverser. Sache que si tu vis ces choses, le Seigneur Jésus, là aussi, veut poser sa main sur toi, que tu puisses vivre d'une meilleure manière ta vie. Là où tu es mort parce que tu es découragé, tu n'en peux plus, le Seigneur veut faire revivre ce qui est mort. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu te sens épuisé physiquement? Ça peut arriver d'être fatigué. La fatigue, ça nous tombe tous dessus. On peut tous traverser des moments difficiles parce que d'une part, on peut avoir certaines activités, le train de notre vie, mais aussi cette fatigue spirituelle, cette fatigue morale, cette fatigue qui est là sur notre tête et on ne sait pas pourquoi elle est là, mais on est fatigué. Le Seigneur est celui qui veut nous redonner des forces parce qu'il est ce Dieu puissant. Peut-être que dans ta famille, il y a un problème. Dans ton couple, il y a un problème peut-être. Et qu'il y a une situation, tu n'arrives pas à la régler. Parce que tu ne comprends pas ce qui ne va pas. Il y a la séparation qui est là entre toi, ton épouse, et tu ne sais pas comment faire. Le Seigneur Jésus peut faire en sorte que cette situation se résolve. Le Seigneur Jésus est prêt à vous unir à nouveau si vous vous êtes désunis. Le Seigneur n'est pas pour les familles brisées, bien au contraire. Il veut rassembler, il veut vous unir à nouveau. La famille a été instituée par Dieu et c'est quelque chose que Dieu veut absolument. Donc si ton couple est brisé, sache que le Seigneur veut le restaurer. C'est sa volonté. Peut-être que tu es en situation où tu te sens esclave de quelque chose. Et tu n'arrives pas à t'en défaire. Et ce qui te lie, ce qui t'enchaîne, te dégoûte. Tu voudrais t'en sortir, mais tu n'y arrives pas. Le Seigneur Jésus est le Dieu puissant et il veut aussi briser ces chaînes-là. Quelle que soit la chaîne que tu as, quelle que soit ta situation d'échec, le Seigneur Jésus, il est admirable pour tout ce qu'il a fait. Mais il est aussi Dieu puissant parce qu'il veut encore agir aujourd'hui. Dans le psaume 115, au verset 3, il y a un texte très clair qui nous dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Le texte ne peut pas être plus clair. Dieu fait ce qu'il veut. Un point, c'est tout, je dirais. J'ai noté cet autre texte parce qu'il nous est dit qu'il est même capable d'utiliser les gens qui sont contre nous en notre faveur. Dans Proverbes, au chapitre 16, verset 7, il y a cette parole qui nous dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Il permet que la paix s'instaure avec les ennemis. » Voilà ce que Dieu peut faire. Il est puissant, il est tout puissant et il fait ce qu'il veut. Donc si ce soir, il a décidé que vous puissiez prendre une guérison, prendre une victoire ce soir, eh bien il peut le faire. Il veut le faire. Après, il y a notre part à nous. J'aimerais évoquer un petit peu juste un texte qui pourrait paraître contradictoire. Regardez avec moi dans Isaïe, toujours, au chapitre 53. On a vu qu'il était admirable, qu'il forçait l'admiration. On a vu qu'il était Dieu puissant. Et quand on lit les deux premiers versets d'Isaïe 53, on ne lit pas tout à fait la même chose. Et il y a d'abord deux questions qui nous sont posées. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Pour reconnaître quelque chose ou quelqu'un, il faut avoir une certaine connaissance pour essayer de discerner. Et il faut aussi avoir une attitude pour pouvoir reconnaître quelque chose, une attitude de chercher. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alors on pourrait se dire, ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Est-ce que c'est ça être admirable ? Il a grandi comme une faible plante. Une autre version dit, il a grandi tout droit comme une jeune pousse. Est-ce qu'on imagine ce que c'est qu'une jeune pousse qui sort de terre ? On ne fait pas quelque chose de plus fragile. Et pourtant, il est Dieu puissant. Est-ce que la Bible se contredit ? Je crois que celui ou celle qui lit rapidement ces choses sans y réfléchir va passer à côté de quelque chose de très important. C'est que pour qu'on puisse découvrir qu'il est admirable, pour qu'on puisse découvrir qu'il est Dieu puissant, il nous faut justement avoir cette attitude de vouloir le discerner. Il nous faut cette attitude de vouloir le chercher de tout notre cœur. Celui qui s'approche de lui de tout son cœur, alors il a la révélation de qui il est. Mais si on n'a pas cette attitude de le chercher de tout notre cœur, on peut passer à côté. On peut ne pas discerner que c'est quelqu'un d'admirable. On peut ne pas discerner qu'il est tout puissant. Et on passe à côté. Et on reste dans notre incrédulité. Et on reste loin de lui. Et on reste à côté de toute la délivrance qu'il veut nous donner. Tout ce changement de vie qu'il veut nous donner. Ces choses sont pour nous ce soir. Prenez avec moi, et on terminera sur ce texte, dans l'évangile de Marc, au chapitre 16. Je lis au verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Pour croire, il faut déjà entendre ce qui nous est dit et prendre la décision de croire que c'est vrai. Et se baser là-dessus pour avancer. C'est le, comme on dit dans les sciences, c'est le postulat de départ. Je crois que c'est vrai. À partir de là, je peux aller plus loin. Mais tant que je ne crois pas, tant que je suis dans le doute, je ne peux pas aller plus loin. Je suis coincé et je reste là où je suis. Celui qui croira, celui qui prend la décision ferme d'agir et de croire à ce qui est dit et qui ira plus loin, qui sera baptisé, sera sauvé. Et celui qui justement ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà ce que dit la parole. Alors vous pourriez me dire, oui, mais là c'est les apôtres de Jésus-Christ, c'était des gens qui avaient connu Jésus-Christ en personne et qui pouvaient reproduire ce que Jésus avait fait. Regardez juste le verset 14 avec moi. Le verset 14 est très intéressant. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'il n'avait pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Et juste après, Jésus les envoie. Les disciples de Jésus, c'était des gens comme vous et moi. Nous aussi, qui annonçons la parole, on a nos faiblesses. Nous aussi, on peut avoir le cœur dur. Nous aussi, on peut même être incrédule quand on prie pour vous. Ça pourrait nous arriver de prier sans y croire. Seigneur, que tu me gardes. Et que tu nous gardes à quand on prie pour vous, y croire vraiment. Les disciples, ils étaient incrédules. Ils venaient tout juste de leur faire ce reproche et après il les envoie. Ça veut dire que Jésus, il est prêt à travailler avec des hommes, avec leurs faiblesses. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Parce que de la même manière que ces gens, ils n'attiraient pas les regards. C'était ce que Jésus avait vécu lui-même. C'est ce qu'on a lu dans Ésaïe 53. Rien n'attirait les regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alors on peut se dire que oui, on peut avoir des faiblesses. Peut-être que cette prédication est imparfaite. C'est certainement le cas. Mais néanmoins, c'est le costume que Jésus nous a donné. Parce que c'est lui qui l'a porté lui-même. Quand il était sur la terre, il était méprisé. Il n'attirait personne. Il n'attirait pas les regards, justement. Sa beauté n'avait rien pour nous plaire. Et il parlait d'une manière simple. C'était le Fils de Dieu révélé. Et il s'est laissé aller jusqu'à la croix. Et il y a toujours cette question, qui a cru à ce qui vous était annoncé? Et ce soir, la question est à nouveau la même. On va prier tout à l'heure pour ceux qui ont un besoin. Le Seigneur Jésus nous dit que c'est en son nom que nous le faisons. Et nous pouvons faire cette prière en son nom que parce que nous avons cru et que nous avons été baptisés, parce que nous avons obéi. Alors, Seigneur Jésus nous donne le droit d'utiliser son nom. Jésus dit aussi dans un évangile, quand il prie, on peut le lire, c'est dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 11, verset 42. Jean, chapitre 11, verset 42, voilà ce que Jésus dit. « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Donc si moi je porte, alors que peut-être je vais prier pour vous, ou Nicolas va prier pour vous dans son nom, est-ce que on est prêt à croire que la prière qui va être faite, c'est pas la nôtre, c'est celle de Jésus? Parce que si je prie tel que Jésus l'a dit, c'est en son nom que je le fais. Ça veut dire que c'est Jésus qui prie. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit. Cela veut dire qu'on peut alors la comprendre que comme Jésus est toujours exaucé, vous pouvez obtenir la guérison ce soir. Vous pouvez ce soir obtenir la délivrance. Ce soir, votre vie peut changer complètement parce que vous allez vous avancer et demander la prière du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce, te dire merci pour ta parole. Seigneur Jésus, tu vois les cœurs ce soir. Tu vois le combat qu'il y a peut-être dans certains cœurs. Seigneur, je te prie pour que ton esprit puisse agir. Je te prie, Seigneur, pour que ce soir, il y ait des victoires de remporter dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la grâce qui nous est encore proposée ce soir. Merci pour le salut, pour ce don gratuit. Merci pour cette vie que tu as donnée pour nous. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as voulu nous réconcilier avec le Père et que tu désires une seule chose, c'est que nous soyons sauvés. Gloire à ton nom, Père. Amen.